Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud. Et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Be Our Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisien et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Entrée en stratégie. Voici l'invitation que nous fait le général Vincent Desportes. Une conversation riche de savoir et d'histoire qui nous aide à mieux comprendre l'espace stratégique. Un espace de confrontation, de volonté libre et indépendante. Un espace où l'altérité et l'incertitude sont loi. Un espace probabiliste bien plus que déterministe. De cet échange, enfin, le concept de vision, mission, valeur prend tout son sens dans l'analyse stratégique. Se dessinent alors les contours d'un leadership libérant qui fait converger les initiatives. Un leadership qui, d'une vision unique et commune, assure la cohérence des arbitrages rendus par tous. Ancien directeur de l'école de guerre, ingénieur, docteur en histoire, titulaire d'un DESS d'administration des entreprises, le général Desportes, esprit brillant, est également professeur associé à Sciences Po et il enseigne la stratégie à HEC. Il a également une société de conseil aux entreprises. C'est un honneur et un plaisir que de pouvoir partager avec vous cet échange. Il était une fois une invitation à entrer en stratégie. Il était une fois le général Vincent Desportes. Aujourd'hui, chers amis, un épisode exceptionnel de La Colle, car j'ai le privilège de recevoir le général Vincent Desportes. Mes respects, mon général.
Bon, bonjour Pierre Barraud.
Mon général, c'est un honneur que de vous recevoir. Pour tout avouer à ceux qui nous écoutent, j'ai lu votre ouvrage Entrée en stratégie, que j'ai lu quasiment d'une traite, au-delà du fait que la stratégie est un sujet qui m'intéresse, mais c'est un livre rare, d'une intelligence rare, où chaque ligne, voire chaque mot est précieux, et donc je vous en remercie, et je vous remercie aussi d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui vous découvriraient, est-ce que vous voulez bien, en quelques mots, nous décrire qui est le général Vincent Desportes ?
Alors, avant, merci à vous, avant d'être général, je suis soldat. Je me considère comme un soldat. J'ai été soldat un tout petit peu moins de 40 ans au service de la France. Et donc, j'ai consacré jusqu'à la fin de ma vie militaire, ma vie, à la défense de la France, de nos valeurs, de son territoire et de ses citoyens. J'ai pratiqué ce métier dans des grades très différents, puisque j'ai commencé comme sous-officier, puisqu'on rentre comme sous-officier à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et j'ai terminé comme général. Mais toujours avec la même passion pour la France, pour mon métier et pour l'humain.
Alors, au-delà de ça, donc, c'est 38 ans de service, au service de la France, et derrière, plus de 10 ans de conseils aux entreprises.
Oui, exactement. C'est-à-dire, si on veut voir les choses différemment, moi, je divise ma vie en trois parties. J'ai pratiqué un métier. Assez rapidement, j'ai cherché à le comprendre, ce qui m'a amené à travailler un certain nombre de matières, à l'université en particulier. Et puis, j'ai essayé de transmettre. D'abord, j'ai cherché à transmettre, évidemment, dans les armées. Et quand j'ai quitté les armées, j'ai cherché à transmettre mon expérience, ma compréhension de ce qu'est le monde réel, ma compréhension de ce qu'est la stratégie aux autres. J'ai essayé de le faire vers la jeunesse. C'est pour ça que j'ai été nommé professeur des universités associées à Sciences Po, où j'enseigne la stratégie maintenant depuis 10 ans. Je l'enseigne également depuis 10 ans à HEC et je l'enseigne à Paris Dauphine. Parallèlement, j'ai pensé que je pouvais transmettre un certain nombre de choses aux entreprises. Et donc, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie, Stratforce Conseil. Et ça fait maintenant également presque 10 ans que je conseille des dirigeants, des chefs d'entreprise, que j'interviens auprès de clubs de dirigeants, et ce, un peu dans le monde entier. Entreprises de toute nature, de toute taille, du CAC 40 jusqu'à la PME, et je cherche à leur faire prendre conscience à la fois de la nécessité absolue d'entrer en stratégie, pour reprendre le titre de mon ouvrage, et puis la difficulté à le faire si on n'a pas compris ce qu'était l'univers stratégique dans lequel on entrait quand on entrait en stratégie.
Alors ça va constituer le gros de notre entretien. Vous êtes, je pense, je veux juste préciser à nos auditeurs que oui, vous êtes Saint-Cyrien, donc ingénieur. Vous avez aussi un DEA en sociologie, vous avez un DESS en administration des entreprises, vous êtes docteur en histoire, vous êtes général de division, vous avez été breveté de l'école supérieure de guerre, vous êtes diplômé de, alors j'appellerais ça l'école des généraux américains, qui est United States Army War College.
C'est tout à fait ça.
Voilà, et ça n'est pas un détail pour moi en tout cas, vous avez commandé aussi le collège interarmé de défense, quelques mois avant d'ailleurs qu'il devienne l'école de guerre.
C'est ça, et c'est parce que j'ai voulu qu'il devienne école de guerre, le processus, j'ai lancé le processus qui a abouti effectivement juste après mon départ, et mon successeur a commandé l'école de guerre, terme que j'avais voulu pour mieux respecter ce qu'est le monde d'aujourd'hui.
Juste pour moi, le fait d'aller étudier avec les futurs généraux américains, ça vous a apporté une nouvelle perspective ?
Ah, ça a été une partie passionnante de ma vie. Alors, non seulement le fait d'être étudiant ou stagiaire à l'école des généraux américains, mais le fait aussi derrière de vivre aux États-Unis. J'ai été un an au cœur de l'US Army et ensuite j'étais attaché militaire à l'ambassade de France à Washington. Donc cette partie de ma vie a été tout à fait intéressante et en particulier m'a permis de comprendre combien à la fois nous étions proches des Américains et combien nous en étions différents. Ce qui m'a amené à écrire deux ouvrages sur ce sujet, le sujet de la culture stratégique. Le premier s'appelle « L'Amérique en armes » et le deuxième, un peu plus tard, « Le piège américain » sous titre « Pourquoi les Américains peuvent perdre les guerres d'aujourd'hui ?» Et j'ai compris en étant là-bas que la guerre pour un Américain était quelque chose de très différent de ce qu'elle est pour un Européen. Mmh. Et que si nous avions du mal à nous comprendre, c'est qu'au fond, nous avions des logiciels guerriers, si vous me permettez l'expression, extrêmement différents. Ce qui m'a à la fois intéressé et également inquiété. Parce que le logiciel américain n'est pas du tout un logiciel européen. Or, à cause de la puissance américaine, à cause de l'OTAN, bien sûr, la plupart des officiers européens, une bonne partie des officiers français, ont fait leur une culture et des manières de guerre qui ne correspondent pas à notre culture profonde, à notre histoire et à nos intérêts. Donc, pour répondre à votre question, oui, cette année passée à l'école des généraux américains était tout à fait passionnante pour cette raison. Et également parce que ça a été une année de recul sur tout ce que j'avais fait auparavant, une année à l'américaine, c'est-à-dire une année très libre, où on lit beaucoup, mmh. où on réfléchit beaucoup, où on écrit beaucoup sur un mode de travail et de pédagogie qui est trop peu pratiqué en France. Donc oui, une année au cœur de l'Amérique, au cœur de l'armée américaine, et donc une armée passionnante et extrêmement enrichissante pour moi.
Et justement, sur ces méthodologies d'apprentissage, c'est des choses que vous avez peut-être fait appliquer derrière à l'école de guerre ou que vous utilisez aujourd'hui dans vos cours à HEC ou Sciences Po ?
Alors, très clairement, j'ai cherché à prendre le meilleur des façons de faire américaines pour les intégrer dans l'école de guerre que je crois avoir profondément fait évoluer quand je l'ai commandé. J'ai trouvé une école de guerre qui était surtout, je dirais, une école technique. Et mon idée profonde est que dans la formation des officiers supérieurs, ce qui est important, ce n'est pas la technique et la connaissance, mais la formation de l'esprit, l'art de savoir se poser les bonnes questions et de porter sur le monde un regard systémique. Donc, j'ai libéré le plus de temps possible. Je l'ai fait pratiquement donner 3 demi-journées de liberté à mes officiers, de manière à ce qu'ils puissent lire par eux-mêmes. Je leur ai donné, comme on m'avait fait à moi à l'US Army, j'aurais donné un nombre important d'ouvrages, de manière à ce qu'ils les conservent, qu'ils travaillent. Et j'ai essayé d'ouvrir la formation à des matières qui n'étaient pas vraiment enseignées, comme la sociologie, l'histoire, la stratégie théorique, un certain nombre de choses qui me paraissaient nécessaires pour former nos officiers au plus haut niveau.
Alors, je vais faire une liaison peut-être un peu audacieuse, mais un des faits générateurs du fait que vous écriviez entrée en stratégie, c'est le constat d'une myopie décisionnelle. C'est-à-dire, en gros, un constat que les décideurs de tous ordres sont aujourd'hui dévorés par le court terme. Et est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Alors, si vous voulez, c'est un constat que j'ai d'abord fait dans mon propre milieu professionnel, qui est l'armée. Et étant historien militaire, j'ai étudié évidemment un certain nombre de campagnes et de batailles, et on ne peut pas ne pas s'apercevoir, si on prend la Première Guerre mondiale, c'est parfaitement évident, hein, que les chefs ont été obsédés par la tactique, par la technique, par l'immédiat, et que le grand drame de cette guerre est d'avoir été conduit au niveau tactique jusqu'en mars 1918. On ne s'est mis à faire de la stratégie que plus tard. Donc j'ai bien vu que dans mon propre métier, on avait une tendance tout à fait mortifère et dangereuse à se préoccuper de choses qui n'ont pas de sens si justement on ne leur donne pas du sens en faisant de la stratégie. J'ai évidemment constaté la même chose dans le milieu politique, où les hommes politiques ont le plus grand mal à à ne pas se préoccuper uniquement des élections qui viennent et à se projeter vers l'avenir. Et on voit que nos présidents ont cette volonté de porter la France vers l'avenir, mais qu'ils ont un mal absolu à le faire, hein, puisque leurs concitoyens sont d'abord préoccupés d'immédiateté.
Oui.
Et puis, dans le monde de l'entreprise, au cours de mes multiples séminaires de conseils, j'ai constaté que c'était la même chose. Les dirigeants, les chefs d'entreprise sont happés par le quotidien, préoccupés de rendements immédiats, vivent au fond la tête dans le guidon, et sont relativement contents de le faire parce que il est plus simple au fond d'avoir les mains dans le cambouis, c'est-à-dire ne pas faire son travail quand on est haut dirigeant, et répondre à ses mails plutôt que de rentrer dans la dialectique stratégique, qui est un exercice toujours compliqué, sans certitude, et qui demande beaucoup de temps sans qu'on soit sûr des réponses. Mais ce faisant, que vous soyez militaire, que vous soyez homme politique ou que vous soyez chef d'entreprise, vous condamnez l'entité stratégique que vous dirigez à l'échec, puisque l'échec ne peut provenir que de la vision, de la hauteur de vue et du sens. Et c'est bien effectivement ce constat de l'absence d'esprit stratégique d'une manière générale, hein, qui m'a poussé à moi-même entrer en stratégie depuis très longtemps, bien sûr, d'écrire beaucoup de livres sur la stratégie et à me préoccuper, à essayer de persuader les chefs d'entreprise, les dirigeants, mes étudiants à HEC, à Sciences Po, que rien, aucune technique ne vaut, qu'elle soit financière, comptable, marketing, aucune technique ne vaut si elle n'est pas mise au service d'une stratégie, et que si la stratégie n'existe pas, si elle n'est pas pensée, eh bien la meilleure technique n'aura aucun effet, ou peut-être seulement des effets contraires.
Avec un constat dur finalement, qui est que, d'autant pour un militaire, aucun plan ne résiste au premier coup de canon.
Mais ça n'est pas un constat dur, c'est le constat évident. Cette phrase que vous avez citée, elle est du général von Moltke, qui est un général parfaitement important. Hein, il commande les armées prussiennes au milieu du 19e siècle. Et il va prendre toute la philosophie de Clausewitz, écrite dans le De la guerre de Clausewitz, et il va en faire un style de commandement. C'est important parce que c'est bien du style de commandement érigé par von Moltke que vont venir les succès de l'armée allemande contre l'armée française en septembre 70, en août 14 et en mai 40. Et la première évidence de Moltke, c'est que le plan est à la fois parfaitement nécessaire et parfaitement insuffisant. C'est-à-dire que je ne peux pas ramener la stratégie au plan. Ma stratégie ou mon projet ne peut fonctionner que si, d'une part, effectivement, il est arc-bouté sur un plan, une compréhension des choses, et si derrière, je suis sûr qu'il ne fonctionnera pas. Et donc, si je crée dans le collectif que je dirige la capacité humaine à adapter mon plan aux réalités rencontrées. Donc, aucun plan ne résiste au premier coup de canon. C'est juste une vérité simple. Nous, on appelle ça la ligne de débouché. Qu'est-ce que c'est? C'est une ligne qui est très importante pour nous. Qu'est-ce que c'est que la ligne de débouché pour un officier de l'armée de terre, pour un soldat? C'est la ligne à partir de laquelle vous pouvez être tué. Pour dire simple. C'est-à-dire que jusqu'à cette ligne-là, vous êtes protégé par la crête, par l'arbre, etc. Et donc, vous ne pouvez pas être détruit. Et puis, tout d'un coup, vous êtes à découvert. Et là, eh bien, ça n'est pas le plan qui fonctionne. C'est votre capacité, c'est votre courage, votre habilité à diriger les hommes. C'est autre chose. Et donc, il y a bien une ligne à laquelle vous amène le plan. À partir de cette ligne-là, votre plan vous aura aidé à arriver dans les meilleures conditions, mais derrière, ce qui vous permettra de gagner, ça n'est pas le plan, c'est l'adaptation du plan. Oui, donc, de manière absolument définitive, aucun plan ne survit à son contact avec la réalité. Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est d'écouter un des plus grands planificateurs au monde, qui est également un très grand chef militaire, qui est le général Eisenhower, qui commande 5 millions d'hommes à la fin de la deuxième
opération Overlord.
Et lui, ou plus que ça, parce qu'il a commandé tous les combats en Europe. C'est lui qui a commandé tous les combats en Europe, Afrique du Nord, Sicile, ouais. Italie, Overlord, et jusqu'à, pas Berlin, parce que les Américains s'arrêtent avant, mais toute cette campagne-là est commandée par Eisenhower. Donc, c'est un des deux grands chefs opérationnels. Bon. Et que dit-il ? Il a une formule que je souhaite que tous ceux qui nous écoutent puissent conserver. Il dit « La planification est indispensable, mais les plans sont dangereux. » C'est-à-dire qu'il a bien compris que le plan était un piège pour qui voulait le suivre, mais qu'il était nécessaire. Mais que ce qui était utile, c'est la planification. Donc, beaucoup plus le process que le produit. Parce que c'est bien dans le processus de production du plan qu'on va conduire l'analyse, qu'on va préparer des réserves, qu'on va faire des plans annexes, etc. C'est-à-dire que la planification va nous préparer à affronter la réalité à condition d'admettre que le plan va mourir immédiatement. Ce qui est important, c'est la planification qui est de l'ordre de la pédagogie, de l'ordre de la préparation des esprits, également de la préparation matérielle. Donc oui, définitivement, que vous soyez en politique, que vous soyez dans les armées ou que vous soyez chef d'entreprise, aucun plan ne survit à son contact avec la réalité.
Et alors là, c'est un peu de métaphysique de la stratégie, mais une de vos déclarations est surtout que la stratégie, c'est une science de l'autre, de l'altérité qui crée finalement et qui porte les composantes même de l'incertitude. Et alors sur ce sujet-là et sur une méthodologie que vous appelez renverser la carte, est-ce que vous voulez détailler là aussi?
Bon, écoutez, d'abord, moi, je souhaite revenir sur ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que là, pourquoi entre-t-on en stratégie? Alors, on entre d'abord en stratégie parce que on a ce que Ségolène Royal appelait un désir d'avenir. C'est-à-dire, le terme est intéressant en stratégie, c'est-à-dire que j'avance parce que je veux aller ailleurs. Je rentre en stratégie parce que j'ai un objectif. Pourquoi aujourd'hui un chef d'entreprise entre en stratégie? Parce qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise, évidemment, ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester sur place. Parce qu'il y a derrière eux une vague qui se prépare, une vague de nouveaux entrants, une vague de nouvelles technologies, et que le chef d'entreprise, trouvant qu'il fait bon au coin du feu, reste au même endroit, va être rapidement submergé par cette vague. Donc le chef d'entreprise est obligé d'avancer comme le chef militaire, qui sait bien que toute armée immobile, le meilleur exemple étant bien sûr celle de la ligne Maginot, toute armée immobile est condamné à l'échec. Donc, première raison, j'entre en stratégie parce que je me projette dans un avenir que je veux construire. Mais ça n'est pas la seule raison. La deuxième raison, s'il n'y avait pas d'opposition entre vous et votre avenir, alors vous ne feriez pas de stratégie, vous feriez de la gestion. Et c'est bien ce qui différencie la gestion de la stratégie. Vous faites de la stratégie parce qu'en face de vous, il y a des volontés qui ne sont pas naturellement convergentes avec la vôtre. La stratégie est par nature une compétition entre des volontés. Et s'il n'y a pas de compétition parce qu'il n'y a pas d'autres volontés, vous ne faites pas de la stratégie. Et donc l'autre est le deuxième constituant essentiel de la stratégie. Et quelle est la difficulté? C'est que l'autre, évidemment, vous ne le connaissez jamais parfaitement, et en particulier, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui se passe entre ces deux oreilles et quelles vont être ses décisions. Pourquoi? Parce que son logiciel, quoi qu'il arrive, est différent du vôtre. Il ne va pas raisonner les problèmes comme vous le faites. Et donc, si vous voulez, pour arriver à raisonner l'autre, vous devez lui prêter des intentions. Parce que quand vous faites de la stratégie, vous ne faites pas de la compétition pour maintenant, vous faites de la compétition pour être meilleur que votre concurrent ou votre adversaire dans 2 mois dans les armées ou dans 5 ans pour une entreprise. Et donc, vous devez vous poser la question de ce que va faire l'autre pendant cette période de 2 mois ou de 5 ans. Donc, vous allez devoir lui traiter des intentions. Hein, le terme est clair. Je lui prête une intention. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, je vais baser mon raisonnement de stratège sur cette intention que je lui prête. Je dois lui prêter une intention par rapport à ses propres objectifs, mais également par rapport à ses réactions supposées. Parce que quand vous êtes en compétition, mettons que vous soyez en duel, l'autre ne va pas se contenter de vous regarder quand vous déploierez votre stratégie, mais il va réagir. Et donc, vous devez anticiper non seulement l'ambition de l'autre, mais vous devez anticiper ses réactions. Pour le faire, eh bien, c'est évidemment très compliqué, puisque chacun a son propre système d'interprétation, chacun à ses propres ambitions, chacun à ses propres contraintes. Et donc, vous devez raisonner l'autre. Et vous ne pouvez le raisonner qu'à partir de son propre logiciel. Et donc, je dois adopter le logiciel de l'autre pour me voir comme il me voit. Nous, militaires, effectivement, nous disons, il faut retourner la carte. Si je veux avoir la moindre chance de comprendre ce que peut vouloir l'autre, alors je dois me mettre exactement dans sa position, regarder la géographie comme il la regarde, et là, telle montagne qui m'apparaissait haute lui paraît plutôt favorable, etc. Donc je vais véritablement retourner la carte. Là, je parle d'exemples physiques, mais évidemment, il y a tas d'exemples qui ne sont pas physiques. Je retourne la carte. Et je vais prendre ses contraintes. Qu'est-ce qu'il a? Quelle est sa trésorerie? Quelle est la qualité de sa ressource humaine? Comment peut-il réagir? Pour un militaire, combien a-t-il eu de pertes? Combien psychologiquement peut-il encore en subir? Est-il d'une nature plutôt courageuse, agressive, ou est-ce plutôt passif? Et c'est bien à partir de cette analyse-là que je pourrais peut-être comprendre ce qu'il veut faire. Donc oui, je dois retourner la carte, ou je dois, dit-on aussi, nous militaires, je dois chausser ses bottes, pour voir le monde comme il le voit, avec son logiciel, et pour me voir moi-même comme il me voit, pour comprendre par exemple s'il a peur de moi ou s'il n'a pas peur de moi. Oui, il faut retourner la carte, il faut chausser ses bottes pour arriver à le comprendre. Et c'est d'autant plus important de le faire que, comme le disait encore très intelligemment Karl von Clausewitz, il disait une des règles fondamentales de la guerre, mais il parle de stratégie en fait, c'est ce qu'il appelle la loi des actions réciproques. C'est-à-dire que dès que vous êtes entré en stratégie, dit-il, vous subissez la loi de l'autre. Vous n'êtes plus votre propre maître, mais en fait, vous répondez aux réactions de l'autre. Et donc, en stratégie, vous n'êtes maître du jeu que quelques instants avant que l'autre ne réagisse. Mais pour comprendre comment l'autre peut réagir, et vous allez contre-réagir, et pour comprendre comment il va contre-réagir, vous devez absolument essayer de le comprendre. Donc, encore une fois, non seulement dès le départ, rentrer dans son logiciel, mais en permanence analyser et adapter votre action à partir de la vision que votre concurrent, votre compétiteur a de vous et de votre propre ambition.
Ce qui nous amène à la notion de degré de liberté, c'est ça? C'est-à-dire que ça conduit directement à ça?
Alors, je ne sais pas si ça conduit directement, mais oui, hein, puisque quand on est en compétition, le point, effectivement, c'est de parvenir à son résultat avant l'autre, ou empêcher l'autre d'y parvenir. Là, je crois nécessaire de revenir un peu en arrière et de se dire que le seul principe intemporel et universel de la guerre est le principe de liberté d'action. Les autres principes sont souvent liés aux cultures stratégiques. Par exemple, un principe qui est très fort dans la culture stratégique française, c'est le principe de concentration des efforts, eh bien, c'est un concept occidental. Les Chinois ne le prennent pas du tout comme un concept fondamental. En revanche, quelle que soit la culture, le principe de liberté d'action est le principe de la guerre. S'il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que la stratégie, c'est parvenir à quelque chose. Donc, vous devez avoir la liberté de le faire. Et donc, vous devez être libre. Et si l'autre vous empêche de le faire, vous n'y parviendrez pas. Et donc, tous les stratégistes le disent. La stratégie, c'est au fond l'art de préserver sa liberté d'action et l'art d'enlever ou de restreindre la liberté d'action de l'autre de manière à vous permettre de parvenir à votre objectif avant l'autre ou d'empêcher l'autre d'y parvenir. Et donc, effectivement, il y a un concept qui est tout à fait intéressant, c'est celle des degrés de liberté. C'est un concept qui a été inventé et théorisé de manière élégante et intelligente par un grand stratégiste français qui est le général Poirier, paix à son âme, hélas, qui était un des grands constructeurs de la stratégie de dissuasion française. Mmh. Et qu'est-ce que c'est qu'un degré de liberté? Les degrés de liberté, c'est ce qui me permet de faire quelque chose. Par exemple, quand je suis chef d'entreprise, eh bien, j'ai des compétences dans mon entreprise qui me donnent la liberté de faire telle chose. J'ai une trésorerie qui me permettra de prendre telle décision. J'ai des fonds propres que je pourrais liquidifier et qui me permettront de faire telle ou telle chose. J'ai des machines-outils. Mais une fois que j'ai dépensé ça, j'ai perdu de la liberté d'action. Une fois que le chef d'entreprise a dépensé sa trésorerie pour faire telle acquisition, eh bien, il l'a perdu. Le chef militaire a des degrés de liberté qui peuvent être, de manière simplificatrice, des avions, des chars, des divisions, etc. Mais quand il va les engager, il va les perdre puisqu'ils sont engagés. Et donc, le problème de la stratégie, vous êtes obligé d'engager des degrés de liberté puisque dès que vous agissez avec du carburant et ce carburant, ce sont les degrés de liberté. Donc, j'engage des degrés de liberté. Et donc, ça, le jeu n'en vaut la chandelle que si vous en récupérez plus que vous n'en avez dépensé. C'est le jeu stratégique, c'est le jeu du financier en entreprise qui ne place pas son argent pour le plaisir de le placer, mais pour en gagner davantage, ce qui donnera davantage de liberté d'action au chef d'entreprise. Et donc, effectivement, l'art de la stratégie, c'est l'art de garder sa liberté d'action et donc de ne dépenser, d'avoir un résultat positif dans sa dépense de ses degrés de liberté. C'est pour ça que Denis Drouin, qui écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Stratégie », dit, et il a parfaitement raison, que les degrés de liberté sont la seule monnaie stratégique. Et quand vous faites de la stratégie, vous dépensez de la monnaie stratégique, qui encore une fois peuvent être des chars ou une usine ou un brevet ou ce que vous voulez. Mais et quand vous allez les engager, vous devez avoir un retour gagnant. Et effectivement, cette notion de degré de liberté, d'abord de liberté d'action, principe fondamental de la stratégie, que vous soyez homme politique, chef d'entreprise ou chef militaire, l'idée des degrés de liberté qui sont le carburant de l'action stratégique, cette idée de monnaie, degré de liberté qui est la monnaie stratégique parce que je vais la dépenser, je dois en gagner, est effectivement au cœur de la stratégie.
Et cette monnaie stratégique, il s'agit de l'investir pour essayer de viser l'essentiel, parce qu'on ne peut pas tout faire, avec une logique, un concept, si j'ai bien compris, d'effet majeur, d'effet de bascule, et vous donner un exemple qui est cher à mon cœur de tout nouvel Orléanais, qui est celui de Jeanne d'Arc, avec la Bastide des Tourelles, qui concentre finalement tous les efforts des Français sur un objectif.
Oui, vous avez raison. Alors, je disais tout à l'heure que les trois éléments qui a amené à entrer en stratégie, c'est une ambition, une nécessité d'avancer. Oui. Deux, l'existence de volonté contraire, et donc la stratégie est toujours une opposition dialectique de volonté. Mais le troisième élément relève de ce que vous venez de dire, c'est un problème de rendement. Parce que si vous avez tous les moyens que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire de la stratégie. Il y a des gens dans le monde qui ne font plus de stratégie. Par exemple, je pense à Tim Cook ou je pense à Jeff Bezos. Ces gens-là ne font plus de stratégie. Mmh. Ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent lancer des tas d'actions, récupérer celles qui fonctionnent, continuer à avancer. Et où le bon Dieu fait pas de stratégie, parce qu'il est tout puissant. Quand il a un problème, il crée une armée d'archanges qui va régler son problème. Mais le chef politique a un capital qui est limité, un capital financier. On regardait les affaires du pauvre président Sarkozy aujourd'hui, ou un capital politique qui est limité. Et donc, je ne peux le dépenser qu'à bon escient. Le chef militaire est comme ceci. Il n'a jamais assez de troupes et puis il est gestionnaire d'un capital qui est toujours limité. C'est bien comme ça, qui s'appelle le sang humain. Et donc, en stratégie, à un moment donné, que vous soyez homme politique, homme d'affaires ou militaire, vous êtes condamné à gérer un problème d'allocation de ressources, à tirer le meilleur parti des ressources toujours trop maigres dont vous disposez. Et donc, la stratégie n'est pas un problème d'allocation de ressources, mais au cœur de la stratégie, vous avez toujours un problème d'allocation de ressources. Donc, comme le dirait, ou comme le disait plutôt Napoléon, vous devez choisir vos batailles. Oui. Napoléon disait, la stratégie, c'est le choix des batailles. Il a toujours gagné ses batailles en étant sous-effectif par rapport aux armées qui lui étaient opposées, dans ses campagnes et par rapport, et dans les batailles elles-mêmes. Ses troupes étaient toujours inférieures en nombre. Mais il a gagné 50 batailles. Il a été un génie militaire. Pourquoi? Parce qu'il avait justement le sens de l'essentiel. Et on sait bien que le stratège est celui qui a le sens de la synthèse et de l'essentiel. Et la question est, où dois-je investir la maigre ressource dont je dispose pour lui faire parvenir, pour lui faire produire un effet maximal? C'est la question que tout stratège a. Or, j'ai vu des dizaines de soi-disant plans stratégiques d'entreprise qui couraient après 10 000 objectifs différents, non convergents, mais qui avaient tous paru extrêmement importants. Ce faisant, eh bien, les moyens étaient complètement dispersés. Évidemment, l'entreprise avait le plus grand mal à parvenir à son objectif final. Donc, dans l'entreprise, dans la politique, chez les militaires, il faut aller choisir ses batailles. Et effectivement, les militaires occidentaux, du meilleur général, ont cette idée en tête. Dans l'armée de terre française, on appelle ça l'effet majeur, mais dans toutes les armées, on utilise cette affaire-là. Où est le point où je vais concentrer mes efforts? Quelle est la condition nécessaire et suffisante? Parce que je n'ai pas le droit de dépenser une goutte de sang de plus que ce qui est absolument nécessaire. Donc, on va raisonner comme ça. Et effectivement, vous citez Jeanne d'Arc, qui va effectivement faire prendre Orléans, alors que les armées du royaume de France, ou de l'ex-royaume de France, puisqu'il a plus droit, le pauvre royaume, sont en train de se battre depuis 2 ans, je crois, devant Orléans. Les Anglais se battent, et la pucelle d'Orléans va dire au connétable qui est responsable, écoutez, en fait, il suffit de prendre ce fort des tourelles et vous allez voir, les Anglais vont partir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on trouve le même exemple avec Napoléon. Napoléon va devenir général à cause de ça. Il est à la campagne pour reprendre Toulon aux Anglais, donc à la fin du 18e siècle. Et le général, dont j'oubliais le nom, qui se bat contre les Anglais, n'arrive pas à reprendre le fort. Et le petit capitaine d'artillerie Bonaparte va lui dire, mais écoutez, au fond, il suffit de prendre ce fort, dont j'oublie le nom. Si vous prenez ce fort-là, les Britanniques vont partir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, je reviens sur Jeanne d'Arc, parce que non seulement il y a le fort des tourelles, mais il y a toute la démarche de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que quand Jeanne d'Arc quitte Don Rémy, elle a une vision. Cette vision, c'est évidemment de libérer le royaume de France de la mainmise anglaise. Mais cette vision, elle ne peut pas l'atteindre. Elle est trop petite, trop faible. Et donc, elle va elle-même se donner un effet majeur. Alors, vous le connaissez. Elle se dit que, au fond, ce qui manque à la France, c'est d'être la France, c'est-à-dire d'avoir un roi. Et donc, elle va... L'effet majeur pour elle est d'aller à Chinon, d'aller y trouver le roi de France, ou le futur roi de France, qui est Charles VII, dont l'histoire dit, vous vous en rappelez, qu'il se cache au milieu de ses pages, oui, qu'il ne veut pas voir la pucelle arriver, et elle le trouve, et elle lui dit, mon roi, mon dauphin, vous devez absolument allez vous faire couronner. Alors, on se rappelle que le roi ne croit, le futur roi Charles VII, qui ne veut pas être roi parce que son père Charles VI est fou, et c'est une des raisons pour lesquelles les Britanniques, ou les Anglais plutôt, n'ont pas de mal à dominer la France. Et donc, le futur Charles VII va envoyer Jeanne d'Arc à Orléans. Justement, sa manœuvre d'Orléans va lui prouver qu'elle est quelqu'un d'extraordinaire. Orléans va revenir voir le futur roi et très courageusement, ils vont partir en colonne, franchir le pays bourguignon puisque la Champagne est bourguignonne, donc anglaise à ce moment-là, et aller amener le dauphin à Reims pour se faire couronner. À partir du moment où le dauphin devient Charles VII, le bruit s'en répand dans les campagnes de France, la France renaît, les armées françaises se regroupent et en quelques années, l'anglais va être bouté hors de France. Et donc c'est fascinant que Jeanne d'Arc ne va pas chercher à combattre les Anglais, elle va chercher cet effet majeur qui est de faire couronner le roi. Les exemples militaires sont extrêmement nombreux, mais les exemples d'entreprises sont aussi nombreux. Les entreprises qui fonctionnent sont celles qui vont non pas viser de manière balistique leurs résultats, mais cherchent à créer les conditions en gagnant deux ou trois batailles sur les ressources humaines, sur la technologie, je n'en sais rien, mais en gagnant ces deux ou trois batailles, alors ils vont créer les conditions d'atteinte du résultat. Et donc, cet outil d'effet majeur est un outil extrêmement puissant que j'utilise moi-même régulièrement, c'est-à-dire tout le temps, dans mes travaux de conseil aux entreprises. Et ça marche extrêmement bien. Et toutes les entreprises qui s'en saisissent sont toujours extrêmement heureux d'avoir eu l'intelligence et le courage de concentrer leurs efforts sur les points les plus importants, deux ou trois, et avoir eu le courage de renoncer. Parce que le stratège doit concentrer, choisir et renoncer. Et c'est peut-être le plus difficile pour être stratège. Il faut savoir renoncer à ce qui n'est pas essentiel.
Alors, vous avez dans votre ouvrage, vous parlez de l'obsession des tableaux de bord. Alors, pour tout vous dire, j'ai quand même, avant d'être dans l'enseignement supérieur, j'ai passé 25 ans de ma vie dans l'industrie du logiciel, justement à faire la promotion des outils informatiques, de tableaux de bord, de suivi, de KPIs, comme les appellent les anglo-saxons. Et vous dites, au contraire, qu'il faut y faire attention.
Alors, il faut y faire attention dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que, évidemment, il est absolument nécessaire de pouvoir observer sa progression vers le résultat. Et donc, vous devez avoir des jalons et vous devez pouvoir mesurer les efforts des uns et des autres des différents projets. Donc, évidemment, il faut des jalons. Alors, le problème, c'est le perfectionnisme. C'est que la nécessité d'avoir quelques jalons s'est traduite par la production de tableaux de bord multidimensionnels avec des centaines de voyants qui clignotent en permanence. Et donc, au lieu d'arriver à une concentration de la pensée, on arrive à une dispersion de la pensée par rapport à ces indicateurs. Et comme finalement, les collaborateurs sont notés et sont payés en fonction d'atteinte de ces indicateurs, les collaborateurs en question finissent par perdre de vue la finalité, à manœuvrer ou à travailler en fonction des indicateurs. Oui. Et ce qui est évidemment tout à fait contraire à la stratégie. Et quand ça va mal, on se concentre sur les indicateurs au lieu d'aller dehors. Et quand vous êtes dans l'incertitude, ce qui est le cas de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est comme quand vous êtes en voiture, dans le brouillard, l'important n'est pas de regarder le tableau de bord et de voir si vous êtes à la bonne vitesse. Non, l'important est de regarder dehors, de baisser votre vitre et de regarder, d'être sur le monde réel. Et ça, c'est un des défauts des tableaux de KPI clignotant de l'orange au rouge en passant par le vert, c'est de faire perdre de vue le sens des réalités. Les aviateurs disent, quand ton avion, tu n'arrives plus à le contrôler, arrête de regarder tes tableaux de bord. Ils disent « fly your plane ». Moi, je dis pour la stratégie, c'est « keep your vision ». Arrêtez de regarder vos KPI. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la vision. C'est-à-dire que la religion des capillaires, poussée à l'excès, a fini par tuer l'esprit stratégique. Mon propos n'est pas déraisonnable. Il dit, oui, vous devez en avoir un certain nombre, mais peu. On sait que Monsieur Mittal, par exemple, quand il s'est saisi d'Arcelor, cela remontait à une dizaine d'années, oui. Eh bien, on savait que Arcelor avait un tableau de capillaire en trois dimensions avec des dizaines et des dizaines d'entrées, et on savait que Mittal, lui, avait un tableau de bord à trois, donné à trois capillaires. Il ne suivait que trois choses, il n'avait que trois indicateurs. Eh bien, devinez, ce n'est pas Arcelor qui a mangé Mittal, c'est l'homme qui avait très peu d'indicateurs, mais les indicateurs essentiels, il savait ramener à l'essentiel. Ce qui est une vertu stratégique essentielle, c'est cet homme-là, évidemment, qui a mangé Arcelor.
Mais c'est un point et c'est un exemple intéressant aussi, parce que Lakshmi Mittal était, on peut le supposer en tout cas, aussi porté par une vision au-delà même d'un plan. Et on a vu au combien les plans pouvaient être dépassés. Et pour moi, une des révélations, on va dire, et j'emploie le terme à bon escient, d'entrer en stratégie, c'est justement d'arriver dans cet ouvrage à réconcilier la notion même de vision, et voire d'entreprise à mission, avec la notion de stratégie. Pourquoi ? Parce que vous écrivez une phrase qui pour moi résonne complètement, qui dit « Le stratège ne bâtit pas sur l'incertain, il va vers le certain, le futur qu'il connaît parce qu'il l'a lui-même déterminé. » C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette vision qui est certaine, puisqu'elle est la sienne, et c'est ce futur-là qu'il veut construire, qui constitue finalement un certain, qui permet eh bien, de bâtir dans un monde d'incertitude.
Absolument. C'est-à-dire que la stratégie est forcément un rétro-raisonnement. C'est-à-dire que je dois avoir un point d'ancrage de ma stratégie dans le futur à partir duquel je vais raisonner de manière rétrograde, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on va rétro-raisonner pour... Oui, rétroactif, ce qui me paraît mieux. On va raisonner le chemin qui va conduire. Pour parvenir à cet objectif, je dois faire cela. Pour parvenir à cela, je dois faire cela, etc. La stratégie est toujours un rétro-raisonnement à partir d'un point d'ancrage. Et effectivement, le présent est parfaitement incertain et toujours imparfaitement connu. Par contre, vous pouvez vous donner un objectif. Et donc, l'existence d'une vision est absolument fondamental. Je dis que le stratège construit le présent à partir du futur, alors que le tacticien, lui, construit le futur de manière tout à fait sans le dominer vraiment, à partir du présent. Je construis à partir du futur que je veux. C'est pour ça que le stratège est quelqu'un qui est volontariste. Je me projette, je me donne un horizon et je rétro-raisonne mon raisonnement, c'est absolument fondamental. Et donc oui, sans vision, sans ambition, pas de stratégie, je dois absolument partir de là. Alors, ce qui est intéressant, vous allez me dire, oui, mais attendez, vous dites en 2025, voilà où je veux mon entreprise. Ouais, certes, mais qu'est-ce qui va se passer entre 2020 et 2025, par exemple, il y a la Covid. Bon, c'est vrai, c'était pas exactement prévu au début de fin 2019, bon. Oui, et c'est ça qui est intéressant chez le stratège, c'est que le stratège doit absolument se déterminer une vision ou une ambition, on peut discuter des deux termes, mais dans l'avenir, enfin, un point d'ancrage de sa stratégie, et qui va lui servir à tracer son chemin et à mesurer l'avancée stratégique. Et en même temps, il sait qu'il n'y parviendra probablement pas, parce que sa stratégie va rencontrer une réalité qui très probablement va lui faire dévier son chemin, va le faire changer d'objectif à un moment donné. Donc, pas de stratégie si je ne me donne pas un désir d'avenir, une ambition à partir de laquelle je vais ancrer mon raisonnement stratégique, mais pas de stratégie efficace ou qui fonctionne non plus si je n'admets pas que très probablement, au cours du chemin, je vais changer cet objectif. On voit là qu'on est encore dans quelque chose qui est un peu compliqué. Tout à l'heure, je disais que la pensée stratégique était forcément dialectique, sans aucune certitude. On se retrouve là également devant le même phénomène. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à tout le monde, loin de là, d'avoir un esprit se prêtant à la stratégie. On peut être extrêmement intelligent, supérieurement intelligent, et ne pas avoir la capacité à être stratège parce que on a l'esprit géométrique alors qu'on n'a pas l'esprit dialectique. C'est comme ça. Et on n'a pas forcément à s'en vouloir. Mais le chef d'entreprise, lui, se doit d'être stratège et donc de réfléchir à tous ces phénomènes, à tous ces éléments qui font partie intrinsèque de la stratégie et de la démarche stratégique.
Et pour moi, il y a une continuité à ça qui me semble hyper intéressante, qui est la notion même de leadership. Parce que cette vision, finalement, voilà, elle construit un or magnétique, une boussole à l'action. Et venant d'un militaire, c'est peut-être l'image d'Épinal, mais un militaire, ça obéit aux ordres. Or, vous écrivez, et c'est votre vision, et je la partage vraiment totalement, bah, que... OK, on construit une vision, un objectif commun qui va assurer derrière la cohérence des arbitrages qui seront rendus finalement par tous les gens qui sont inclus dans l'action. Ce qui fait que finalement, c'est un leadership qui donne une direction, mais qui ne donne pas les chemins précis et qui s'appuie sur la convergence d'initiatives et donc de ces subalternes, on va dire, pour utiliser une expression peut-être plus militaire. Et finalement, c'est cette liberté donnée qui me semble intéressante. Et je vous le dis comme ça, c'est venant de... peut-être de l'image d'Épinal d'un militaire, je trouvais ça étonnamment étonnant.
Ok, alors je suis pas surpris de votre dernière remarque, mais il vient de quelque chose de très simple, c'est que les Français, d'une manière générale, ne connaissent pas leur armée. Pour leur armée d'aujourd'hui. D'abord parce que l'armée d'aujourd'hui est toute petite et donc les contacts entre les armées et la nation sont très faibles, alors qu'avant, avec le service national, évidemment, les Français connaissaient mieux. Mais justement, le service national a eu un effet pervers. Dieu sait qu'il avait de très très grandes qualités, mais il a eu un effet pervers, c'est de faire croire aux Français que l'armée dans laquelle ils avaient vécu était l'armée éternelle. Et l'armée de la guerre froide, donc l'armée de conscription, était une armée dans laquelle, effectivement, on était dans la certitude, puisqu'on connaissait notre adversaire par cœur, etc., on connaissait ses plans, donc pas de difficulté. On avait une ressource qui était de grande qualité, mais qu'on n'avait pas beaucoup de temps de former, parce qu'il fallait bien qu'elle puisse être apte au combat. Et donc, on avait un commandement qui était très rigide. Et puis, on est entré ensuite dans un autre monde. On a mis une dizaine d'années à comprendre cette différence des années 90. Et on est rentré dans un monde de l'incertitude totale, que ce soit en Afghanistan, au Moyen-Orient, on est dans l'incertitude totale. Et on a bien compris que là, on n'avait pas les plans d'adversaire, d'ailleurs, on ne le connaissait pas. Et que donc, on ne pouvait pas présager des circonstances qu'allait rencontrer le collaborateur. Et que donc, si on mettait autour de lui un carcan auquel il allait obéir, forcément, le carcan serait inadapté par rapport aux circonstances réelles. Et que donc, l'efficacité venait de la capacité à adapter les ordres. Et donc, je dirais que le leadership militaire a complètement pris ça en compte. Maintenant, nous, les Britanniques appellent ça le mission command, un commandement par la mission. Sa tâche à la plus grande fermeté sur la mission et à la libération complète des initiatives pour l'exécuter. Donc, dans un autre ouvrage qui fonctionne très bien, que j'écris, qui s'appelle « Décider dans l'incertitude », j'ai bien dit que je décris ce principe qui est de créer une bulle de liberté d'action la plus grande possible autour de chacun des collaborateurs, de bien lui faire saisir quelle était la mission, et de manière à ce qu'il puisse prendre des initiatives d'adaptation permanente, tout en restant convergent. Et alors, puisque c'est intéressant de regarder l'histoire, pourquoi est-ce que l'armée française a perdu de manière très dure contre les Allemands en 70, en 14 et en 40? C'était fondamentalement parce que nous étions une armée qui ne faisait pas confiance à l'homme et qui était cartésienne, et que nous combattions contre une armée qui fondamentalement faisait confiance aux collaborateurs et qui était kantienne. C'est-à-dire qu'elle ne croyait pas à la solution parfaite. Et donc, puisque je ne crois pas en ma capacité à donner le bon plan, je suis allemand, et donc je vais donner de la liberté d'action. Et donc, si l'armée allemande a été tactiquement la meilleure armée pendant un siècle en Europe, et elle a donné du fil à retordre à l'Alliance jusqu'en 45, on le sait bien, parce qu'ils étaient excellents sur le terrain. C'est pour quelle raison? C'est parce qu'ils ont su allier une discipline la plus stricte quant à la mission. Et ça, c'est fondamental chez les militaires. Mission first, je vais remplir la mission. Donc, j'ai allié la discipline la plus stricte à la plus grande liberté quant aux modalités d'action. Et face à elle, j'avais une armée qui était totalement hiérarchique, sans aucune liberté d'action, et dans lequel l'esprit d'initiative avait complètement disparu. Devinez quoi, c'est l'armée qui fait confiance à l'homme et qui accepte la réalité de la vie comme est la vie qui va l'emporter. Et alors, ce qui est dommage, c'est que évidemment, ça fait longtemps que les militaires avaient pensé à cette affaire-là. Les militaires français. Évidemment, d'abord Napoléon, hein, l'a compris, qui dit un collaborateur n'est tenu d'obéir à un ordre que si celui qui lui donne est à côté de lui quand il lui donne. Donc Napoléon lui donne cette liberté d'action à chacun de ses collaborateurs. Tu as cette vision-là, tu comprends et tu dois t'adapter. Foch, qui gagne la Première Guerre mondiale, lui parle de l'obéissance active. Il dit que la bonne obéissance, c'est l'appel constamment adressé à l'initiative. Et il a cette formule absolument remarquable, qui est de dire « la discipline formelle est une forme d'indiscipline ». C'est-à-dire que je ne peux pas, moi collaborateur, moi subordonné, moi subalterne, me cacher derrière l'ordre que j'ai reçu pour dire « chef, j'ai perdu parce que tu m'as donné un ordre qui ne convenait pas ». Non, je dois tout prendre en compte, tout faire pour que ça fonctionne. Une autre citation que je trouve très intéressante est celle du général Lagarde, qui commande les armées françaises, l'armée de terre française il y a 35 ans, et qui nous laisse une citation remarquable et qui dit « l'initiative est la forme la plus aboutie de la discipline ». Dernière citation, si vous permettez, parce qu'elle est remarquable.
Ah, je suis fan,
c'est
vous
De Gaulle
pouvez y aller.
Qui cite. Bon, c'est De Gaulle qui De Gaulle qui parle de Leclerc dans ses mémoires, et qui dit, c'est les deux grands généraux, hein, il y a eu très très grands généraux, mais les deux grands généraux qui sortent, c'est De Gaulle et Leclerc, bien sûr. Et De Gaulle dit de Leclerc, Leclerc était un très grand général parce qu'il a obéi à tous mes ordres. So what? Évidemment, il continue, en particulier à ceux que je ne lui ai pas donnés. Et on voit donc que l'éthique de l'obéissance militaire, c'est se donner à soi-même, c'est adapter les ordres reçus en fonction des circonstances que ne pouvait pas connaître celui qui a donné l'ordre, et me donner les ordres que l'autre, que mon chef aurait donné s'il avait été à ma place. Et de manière assez étonnante, Sun Tzu écrit cela à peu près dans les mêmes termes. Et pour revenir à l'armée allemande, ce qui est très intéressant, c'est que Moltke, donc il va donner toute sa puissance à l'armée allemande, interdit qu'il y ait le moindre ordre d'opération dans les armées allemandes. Il n'y a pas d'ordre d'opération dans les armées allemandes. Il n'y a pas de plan d'opération. Il y a des plans de déploiement avant la ligne de débouché, avant le contact avec l'ennemi. Après, il n'y a plus que des projets d'opération. C'est-à-dire que, eh bien, il compte sur ses collaborateurs, hein, pour adapter le projet en fonction des circonstances.
Et puis, il leur a donné la vision. La vision, c'est Nach Paris.
On va non, mais c'est ça, et c'est très étonnant pendant la guerre 70. Il donne que deux ordres. Jusqu'à la frontière, les ordres sont précis. Puis, à partir de la frontière, il ne donne plus que la vision, l'objectif. Après, il compte sur la capacité d'initiative de ses collaborateurs. Et cette idée-là, je crois, est absolument fondamentale. Si vous ne donnez pas la liberté à vos collaborateurs, au fond, il n'y a que vous qui travaillez, il n'y a que votre intelligence. Et donc, pourquoi s'entourer d'une ressource humaine de qualité pour la former si je vais la contraindre à exécuter dans le détail des ordres qui seront probablement inadaptés aux circonstances. Et donc, je dois créer cette liberté, donner cette liberté d'action. C'est évidemment absolument fondamental. Ce que nous savons, c'est que tout succès militaire est basé sur l'initiative, pas sur la discipline. La discipline est importante quant à la mission, mais c'est bien l'initiative, la capacité d'ajustement individuel du deuxième classe au général qui fera le succès militaire.
Une vraie leçon de leadership, ça c'est une évidence. Je profite de vous avoir, je suis désolé, je profite de votre temps, mais vous avez écrit une tribune dans Atlantico sur la notion de décision en temps de crise, et là, force est de constater qu'on est quand même les deux pieds dedans, que moi je pourrais résumer, alors dites-moi si je me trompe, par la phrase de Rabelais qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire que aujourd'hui, prendre une décision dans un contexte comme celui qui est le nôtre, c'est oui difficile, c'est du doute, mais du doute constructif. Et si on doit douter, par contre, on ne doit jamais hésiter.
Oui, alors là, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. La première, effectivement, pourquoi j'ai écrit cette tribune ? J'ai été évidemment frappé par les critiques des nouveaux millions d'épidémiologistes que la Covid a créé en France, oui. Qui critiquent toute décision prise en se disant « Wikipédia me dit que c'est pas comme ça ». Bon, et donc, ce qui est parfaitement horripilant, c'est les gens qui critiquent. La pensée critique est une bonne chose, la critique systématique est évidemment une mauvaise chose. Bon. Et ne savent pas ce qu'est la décision stratégique. La décision stratégique, elle est toujours partielle d'abord. C'est-à-dire que que vous soyez président de la République, que vous appeliez Véran, ou que vous soyez Darmanin, de toute façon, quand vous prenez votre décision, vous ne connaissez qu'une partie de l'univers stratégique. Donc, elle est forcément partielle. Mmh. Après, votre décision, que vous soyez chef d'entreprise, chef politique, elle est relative. Relative à quoi ? Relative à vous, c'est-à-dire que vous portez un regard sur le monde et tout regard humain est différent. Les lunettes que vous portez, les lunettes intellectuelles, viennent de votre race, de votre sexe, de vos études, de votre expérience et chacun porte un regard différent. C'est vous qui portez la décision et celui qui est à côté de vous forcément peut avoir un point de vue différent et aura un point de vue différent. Donc la décision, elle est relative à celui qui est en responsabilité et peut donc toujours être critiqué. Et puis, elle est temporaire, on l'a tellement vu avec le Covid. Ce qui était vrai hier devient faux demain, et on le voit, le discours du président Macron hier soir était assez clair sur ce sujet. On ne sait pas, on saura mieux demain, je prendrai des décisions demain, donc je prends une décision aujourd'hui et je l'adapterai demain. C'est comme ça. Et donc, et vous ne pouvez pas, vous citez Rabelais, vous ne pouvez pas vous appuyer sur la science. Pourquoi ? Parce que la science n'est pas une addition de vérité absolue, mais une addition de vérité qui est périssable. Alors, le meilleur exemple pour moi, c'est l'exemple des masques. On reproche toujours au gouvernement, aujourd'hui, d'avoir eu un langage qu'on a dit pas très, un peu incohérent sur les masques, et en disant, vous avez dit que les masques n'étaient pas utiles, en fait, ils le sont. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, en Suède, qui connaît le Covid comme nous, avec des hôpitaux qui sont à la limite de la saturation comme nous. Aujourd'hui, le Conseil scientifique des Suédois, et on ne peut pas penser qu'il soit stupide, estime que le masque n'est pas nécessaire et les Suédois n'ont aucune obligation de porter des masques. Donc, vérité en deçà des Pyrénées et fausseté au-delà. Voilà. Donc, la science ne vous le dira pas, d'autant plus qu'on sait bien que la science avance à cause des déviants. Hein, c'est qui fait avancer la science, c'est les Einstein, c'est les Galilée, c'est les Newton. Donc la science ne vous est pas d'une grande utilité. Et donc toute décision en stratégie est une décision en conscience et non pas en science. Moi, aujourd'hui, avec ce que je connais, avec ma rationalité limitée, pour reprendre le terme d'Herbert Simon, avec ma rationalité limitée, je pense que la meilleure décision pour mon entreprise, pour ma nation, est celle-là. Alors, je la prends en conscience. J'aime bien une, et pas en science, j'aime bien une citation de la gouverneure du Rhode Island au début de la pandémie, donc au mois de mars ou avril. Elle dit, dans cette crise, je cite peut-être, hein, et elle dit, dans cette crise, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y en a que des mauvaises. Mais je vais prendre des décisions. La seule certitude que j'ai, c'est que je vais faire des erreurs. Et ma seule promesse, c'est que dès que je m'en apercevrai, je réparerai, je corrigerai mes décisions en tenant compte de ce que je sais. Et tout décideur stratégique est fait comme ça. C'est pour ça que je pense, moi, qu'un décideur stratégique doit refuser le concept de mauvaise décision. Je le dis toujours à mes chefs d'entreprise, n'acceptez pas de penser que vous avez pris une mauvaise décision, sinon changez de métier. Dites-vous qu'à un moment donné, la tête dans les mains, avec votre intuition, puisqu'aucune de vos décisions ne peut être parfaitement rationnelle, vous avez pris la décision qui vous paraissait la moins mauvaise. Elle n'était pas mauvaise, elle était la moins mauvaise. Et donc, vous l'avez pris en votre âme et conscience. Et quand 2 mois après ou 2 ans après, vous devez changer, ne vous dites pas « j'ai pris une mauvaise décision », dites « j'ai pris la meilleure décision du moment ». Et maintenant, je m'aperçois que je dois l'adapter. Et c'est pour ça que quand vous parlez du doute, vous avez raison, c'est-à-dire que le stratège doit douter, effectivement au sens cartésien ou pascalien du terme. Je dois être capable de comprendre les conditions dans lesquelles j'ai pris ma décision et de savoir que ma décision ne peut pas être certitude. Ma décision, elle est intuition incertaine. C'est comme ça. Et donc, je la prends, et donc je suis toujours capable de revenir derrière. Ma décision ne peut pas être un carcan intellectuel ni un carcan pour mon entreprise. Je dois être capable de le regarder comme un objet que j'ai créé à un moment donné. Donc je dois douter au sens cartésien du terme, mais je ne dois pas hésiter, d'où la formule que je cite, je crois, effectivement dans mon livre, douter toujours, mais n'hésitez jamais, parce que vous avez des hommes à conduire, et ceux-là, vous ne pouvez pas les faire douter, vous devez évidemment leur faire comprendre que tout ne se passera pas comme prévu, mais vous devez avancer, parce que c'est la seule solution pour vous en sortir, avancer et adapter, donc avoir créé autour de vous par le leadership, les conditions humaines de l'adaptation de votre décision pour faire produire à votre décision imparfaite le meilleur de ce qu'elle peut produire.
Et ça nécessite aux décideurs aussi d'avoir une vraie humilité.
Ah, vous avez raison. C'est souvent ce qui manque. Et je crois que là, nous, Français, sommes un peu moins bons que les Américains. Alors, je le dis, j'ai dit tout à l'heure que j'avais vécu 5 ans aux États-Unis, donc j'ai observé les chefs américains. Et la société américaine est une société d'ego. Oui. Bon, la société française est une société profondément régalienne. Et donc le chef a raison. En Amérique, le chef n'a pas forcément raison, sauf si ça peut craindre. Mais sinon, il n'a pas forcément raison. Et donc
on ne parlait pas de géopolitique ou de géostratégie.
Non, je n'en parle pas, mais dans la nature des peuples et la décision, le chef français est le chef issu du choix du roi, du choix de Dieu, etc. Bon, c'est comme ça. Et donc, il a raison. Et donc, j'ai du mal à... On ne peut pas remettre en cause sa décision. Alors que l'Américain, lui, comprend bien que sa décision, elle est le fruit d'une histoire, d'une géographie, d'un codir local, d'une formation qu'on lui a donnée. Et donc, il a moins de mal à remettre en cause sa décision. Et le fait de pouvoir séparer la décision du décideur est quelque chose qui aide les Américains à l'adaptation. Nous, on a beaucoup de mal à le faire, et donc on pense remettre en cause le décideur quand on remet en cause la décision, ce qui n'est pas vrai. Et donc, le décideur lui-même doit être suffisamment humble pour dire « Non, moi, je ne peux pas comprendre le monde. Donc d'abord, je vais faire appel à vous, à votre expérience, à votre intelligence, pour m'aider à comprendre le monde, pour bâtir avec vous la meilleure décision, je la prendrai moi-même, c'est mon rôle. Mais je vais m'entourer de votre intelligence et de votre expérience. Et je prends ma décision. Mais je n'admets en aucun cas quelle est la décision, le carcan que je dois suivre. Je suis humble parce que j'ai compris mon incapacité à comprendre parfaitement l'univers dans lequel je suis. J'ai compris toute l'imperfection de ma décision et donc je suis humble par rapport à cette compréhension du monde et à la façon dont j'ai élaboré ma décision.
Merci beaucoup pour tout ça. C'est éclairant, limpide, brillant. Je vais vous libérer d'ici quelques instants, mais vous le savez, je fais passer mes invités au crible d'un questionnaire inspiré de celui de Bernard Pivot. Et donc, mon général, quel est votre mot préféré ?
Quel est mon mot préféré ? Je suis officier de cavalerie et mon mot préféré, c'est « en avant ». En avant. Aléa, j'atteste, en avant. Action, en avant.
C'est pas Napoléon qui disait en avant, on verra ? Quelque chose comme ça, non ?
Oui, oui, mais c'est bien de le rappeler, mais ce que il ne faut pas, il faut comprendre ce que faisait Napoléon. Napoléon avait fait un travail très important auparavant. Et quand il dit ça, il dit la phrase exacte, c'est on avance et on voit. Mais quand il avance, il a préparé ses capacités d'adaptation. Il a mis un corps d'armée, celui de là, celui de né là. Il a préparé les conditions d'adaptation à l'incertitude. Et pourquoi dit-il on avance ? Il dit si je n'avance pas, je laisse l'initiative à l'autre et donc je vais subir. Alors que si j'avance, c'est moi qui bâtis l'avenir, j'ai un impact sur la construction de mon avenir. Et dans ces campagnes, c'est le fait d'avancer qui va lui faire amener les armées des autres combats, des autres nations à l'endroit où il souhaite les combattre. Mais s'il était resté sur place, oui, il n'aurait pas pu était plein de certitudes. Donc, il conserve cette capacité, cette notion d'incertitude. Il a travaillé, il a préparé des réserves pour s'adapter et il veut sculpter l'avenir et il sculpte l'avenir en avant, mais il a derrière les autres outils qui vont le permettre de le sculpter comme il veut qu'il soit sculpté.
Le mot que vous détestez ?
Alors, le mot que je déteste, c'est le mot inverse, hein, c'est tergiverser. Arrêtons. Il y a un temps pour penser et il y a un temps pour avancer. Pourquoi tergiverse-t-on ? On tergiverse parce qu'on croit qu'en tergiversant, en attendant encore un peu, on aura tous les éléments pour prendre la bonne décision. Et donc, on va décider trop tard. MacArthur disait « Toutes les défaites, c'est too late. Vous avez décidé trop tard. » Et Napoléon disait, il a une phrase très intéressante, il disait « Le chef doit avoir le courage de 2 heures après minuit, à un moment où je dois mettre mes troupes en place. Et si j'attends encore un peu pour avoir de l'information, de toute façon, je n'aurai pas le temps de les mettre en place et je vais perdre. » Et ça, c'est important. Il y a dans le temps une ligne qui coupe l'espace-temps en deux. D'un côté, il n'y a plus que des mauvaises décisions et de l'autre, il y a des bonnes ou des mauvaises. Eh bien, je dois avancer. Je ne tergiverse pas. J'avance. Ma décision, quoi qu'il arrive, sera imparfaite et inadaptée. Comme ça, et donc j'avance, mais auparavant, comme Napoléon, j'ai créé les conditions de l'adaptation pour faire produire à ma décision imparfaite le meilleur des résultats possibles.
Le son ou le bruit que vous aimez ?
Alors là, ça vient directement évidemment du sport que je préfère et que j'ai préféré, que j'ai beaucoup pratiqué, et puis de mon métier, c'est celui des chevaux au galop. C'est celui de la charge, hein, ça va, on a décidé, maintenant on y va. Donc c'est celui des chevaux au galop, si possible évidemment dans la brume,
sabre au clair,
quoi qu'il arrive, les chevaux au galop. Sabre au clair, s'il le fallait, moi je ne vais pas sabrer Charles sabre au clair, hein, mais comme j'ai commandé un régiment de chars, hein, avec plusieurs bataillons de chars, et évidemment le général, le colonel est devant, et il commande, nous sommes devant, parce que nous savons que les hommes se dirigent par l'avant. Nous disons, nous militaires, que les hommes sont comme les spaghettis cuits, c'est pas en les poussant qu'ils avancent, il faut être devant et les tirer. Et d'ailleurs, la devise de l'infanterie américaine,
je connaissais pas cette image,
parce que c'est pas l'homme. Et elle est vraie, il faut tirer, il faut être devant. Et la devise américaine de l'infanterie, c'est « follow me, suis-moi ». Et pas « je te suis », c'est « suis-moi ». C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle il y a toujours relativement plus de généraux qui meurent au combat que d'officiers non généraux, plus d'officiers que d'officiers, et plus d'officiers que de militaires devant. Je parle de manière relative. Pourquoi ? Parce que dans l'armée, le chef est devant, parce qu'on sait qu'on tire les gens et qu'on ne les pousse pas. Que l'exemple est évidemment
les pertes sont plus grandes.
D'une première importance. Comment ? Pardon ?
Je dis proportionnellement, les pertes sont plus grandes, en effet.
Ah, c'est absolument, toujours. C'est bien un des problèmes, par exemple. Et pendant le débarquement de Normandie, par exemple, on a tous vu le soldat Ryan. Et le film met le capitaine derrière. Et un des problèmes, c'est que les officiers sont devant. Et qu'ils vont tous mourir tout de suite. Et ça va être un vrai problème. Et un des problèmes de la guerre de 14, c'est que tous nos officiers d'actifs, les chiffres sont facilement vérifiables, vont mourir tout de suite. Les promotions de Saint-Cyrien vont mourir tout de suite, rappelez-vous, en Cazoar et Gamblan. Et donc, il faut même faire attention à ça, parce qu'il faut bien conserver une certaine capacité de conception à l'arrière, mais notre tendance est évidemment d'être dehors.
Le son ou le bruit que vous détestez?
Alors là, c'est le bruit de fond des théories des complots qui me fatigue, qui nous fatigue tous. Cette musique, c'est la musique des idiots qui ne connaissent rien, qui n'ont pas de culture et qui empêchent le monde de tourner et la France de tourner. Et ce bruit de fond qu'on entend tous les jours à la radio, à la télévision, dans les micro-trottoirs, je pense que c'est absolument épouvantable et c'est en train de saper notre capacité à évoluer. On voit pourquoi est-ce que le président Macron a dit hier, alors qu'il aurait dû dire le contraire, que le vaccin pour la Covid ne serait pas obligatoire, parce que plus la moitié des Français pensent que c'est un complot des grands financiers ou des industries du médicament qui veulent gagner de l'argent, etc., quitte à rendre les gens malades. Et donc, c'est absolument épouvantable, cette théorie du complot à tout bout de champ, c'est un bruit qui est absolument insupportable.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Alors, il est simple, c'est « basta ». Il y en a marre, on avance, basta, point.
Il y a une certaine cohérence dans vos réponses. Hein.
Pardon?
Je dis, il y a une vraie cohérence dans vos réponses.
Alors vous aurez du mal à me changer en 1h15.
La citation que vous auriez aimé prononcer?
Alors, c'est une citation que tout le monde connaît, qui est parfaitement simple, mais qui décrit vraiment ce que je crois. C'est une citation de Jean Bodin, le philosophe des Lumières, si je ne m'abuse, ou un peu avant, qui dit « Il n'est de richesse que d'hommes ». Et on sait que c'est ce qui est écrit dans Valeurs actuelles, c'est pas pour ça que je le dis, mais parce que je le pense vraiment. « Il n'est de richesse que d'hommes, il n'est de succès que dans la confiance dans l'humain ». Nous en sommes, nous militaires, tellement persuadés. Nous avons dans nos armées des gens parfaitement ordinaires, les rejetés de la vie scolaire, les rejetés de l'entreprise qui viennent finalement frapper à la porte des armées et qui viennent nous poser la question « Voulez-vous bien de moi ?» Alors nous, on les prend. Ce sont des hommes souvent peu éduqués, qui ont peu de connaissances, des hommes absolument ordinaires et on en fait des... On leur fait faire des choses absolument extraordinaires, comme par exemple d'accepter de risquer sa vie pour des valeurs qui les dépassent, pour la France, pour la liberté, pour la démocratie. Donc l'homme est plein de richesses. C'est bien la raison pour laquelle il faut avoir un leadership libérant, comme le leadership militaire. Il n'est de richesse que d'hommes. L'homme est la richesse des armées, comme elle est bien sûr la richesse des nations et des entreprises.
Leadership libérant, j'adore l'idée. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Alors, d'une part, je ne suis pas très pressé. Je ne suis pas très pressé parce que
je ne souhaite pas.
J'ai une vie J'ai une vie passionnante avec les hommes, pour les hommes, pour les valeurs, pour la France. J'ai vraiment eu une belle vie, une vie de pauvre, parce que le militaire est pauvre, mais il vit dans un collectif, dans des valeurs. Et donc, nous, tous les militaires ont toujours une vie extraordinaire. Et d'ailleurs, quand les militaires quittent l'armée, sont toujours très nostalgiques de la vie qu'ils ont eue. Et donc, moi, je me suis mis, je crois toujours, au service de l'homme. Et donc, j'aimerais que le bon Dieu me dise, pas trop tard, hein, sans que je traîne trop au purgatoire, me dise en m'accueillant, merci d'avoir toujours cru en la plus belle de mes créations, l'homme.
Eh bien, voilà, nous resterons sur cette parole humaniste. Et je noterai et ferai mienne la notion de leader libérant. Mon général, je vous remercie infiniment de votre temps, de la richesse de cet échange. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les jours ou les mois à venir ?
On peut me souhaiter que de repartir un peu au contact, parce que je suis comme vous confiné, donc je fais beaucoup de conférences ou de conseils entreprises, mais à travers un écran. Et moi, ce que j'aime, c'est le contact. J'aime regarder les gens dans les yeux, les persuader, faire passer ma conviction. Je crois que j'y arrive un peu à travers un écran d'ordinateur. J'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre ceux qui m'écoutent par le bout du cœur, par le bout des tripes, pour leur faire passer mes convictions.
Eh bien, mon général, en avant, au contact, merci infiniment.
Merci à vous, Pierre Barraud.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer, et je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.